Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Game as a Podcast, l'émission qui parle de l'industrie du jeu vidéo sous un angle un peu plus business. Dans ce podcast, on parle des éditeurs et de leurs stratégies, ainsi que des tendances de l'industrie. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de Demon's Souls et de comment From Software a utilisé l'UGC, l'User Generated Content, pour bâtir une communauté. Mon histoire avec From Software commence officiellement avec Demon's Souls, l'année de sa sortie. On est en 2010, et un ami me prête le jeu en me le présentant comme dingue, mais hyper difficile. Je suis alors au collège, et un matin, je lance ce jeu. J'y joue pendant 2 heures, et je n'ai pas progressé d'un pouce. Pendant 2 heures, je ne fais que mourir et recommencer pour mourir un peu plus loin à peine, mais sans jamais atteindre un autre checkpoint. Ce n'est pas la première fois que j'ai affaire à un jeu difficile. Monster Hunter Freedom 2 sur PSP m'avait fait le même effet lorsque j'y avais joué pour la première fois. J'avais bien accroché, mais au bout de quelques heures, la difficulté m'avait éloigné du titre, et ce sont des amis qui par la suite m'ont remotivé à jouer au jeu. Et je sens que Demon's Souls va me poser le même défi. Mais le jeu n'est pas à moi, et je n'ai pas envie de garder le jeu de mon pote indéfiniment, donc je lui rends le lendemain, et j'en ressors frustré de cette expérience. Il faut dire qu'à l'époque, ce sont mes parents qui achètent mes jeux, et je dois choisir les jeux que je leur demande avec minutie parce que les poches de papa-maman ne sont pas infinies. Et donc je me dis que je préférerais bien un jeu plus simple et plus accessible. Et c'est ainsi que l'expérience Demon's Souls s'arrête pour moi. Et même l'expérience From Software, à vrai dire, qui s'arrête aussi. J'ai pourtant des amis qui sont ultra fans des Dark Souls, qui vont sortir par la suite. Et c'est d'ailleurs grâce à cette série que From Software va exploser en popularité, plus qu'avec Demon's Souls, qui a eu des ventes plutôt, on va dire, des ventes entre guillemets, puisqu'on est à 1,6 million sur PlayStation 3, malgré une excellente réception commerciale. Et pendant 10 ans, en réalité, la fameuse décennie Dark Souls me passe complètement à côté. Il faut dire que, aussi, j'ai eu une période de pause pendant 3 ans à cause de mes études, où je n'ai joué à aucun jeu, si ce n'est Plants vs Zombies 2 sur mon smartphone. Et j'ai beau avoir vécu la sortie des jeux From Software, j'y suis éloigné et j'ai l'impression qu'un engouement chez les joueurs et les joueuses se crée autour du studio, mais j'y suis un peu étranger. Ce n'est qu'en 2021 que je joue à Sekiro, le premier, on va dire, ma première vraie expérience avec From Software, et pour le coup, c'est un coup de cœur, qui n'est pas immédiat toutefois, puisqu'il a fallu le temps que je maîtrise la parade et le fameux contre-migi pour pleinement apprécier le titre, mais ça reste peut-être à ce jour, mon jeu d'action préféré. J'enchaîne avec Bloodborne, que j'aime beaucoup aussi, plus pour son univers et sa direction artistique, mais surtout pour l'aspect narratif de son gameplay. C'est peut-être la première fois que je découvre qu'un gameplay peut raconter des choses, et je trouve ça génial. Et même si Sekiro et Bloodborne font partie de la mythologie From Software, je reste encore étranger à la licence Dark Souls, qui reste la porte d'entrée et la grosse marque en fait de From Software, dont Demon's Souls en est le fondement. Et donc, nous voici aujourd'hui, où j'ai commencé Demon's Souls Remake sur PlayStation 5. Donc oui, il n'est pas réalisé par From Software, mais par Bluepoint, qui est un autre studio, et qui fait d'ailleurs un travail magnifique, puisque le jeu est sublime. Mais ce que je vais dire par la suite s'applique surtout à From Software, puisque ce sont eux qui sont à l'origine du design de Demon's Souls. Et donc, il était temps pour moi que je prenne ma revanche, et l'occasion de ce remake était pour moi l'opportunité parfaite. À l'heure où j'écris ces lignes, j'ai passé quasiment une vingtaine d'heures sur le titre, et je pense avoir vu presque la moitié du jeu à la louche. Alors, je pourrais vous parler de mes aventures pendant des heures, et je pense que je ne suis pas le seul. Et c'est d'ailleurs ce sentiment de partage autour de ce jeu qui m'a inspiré cet épisode d'aujourd'hui, car on va en parler d'UGC. L'UGC, qu'est-ce que c'est ? Alors cela signifie User Generated Content, autrement dit le contenu créé par un utilisateur. Vous avez peut-être entendu ce terme dans la presse ou sur YouTube, j'en ai moi-même parlé dans certains épisodes, et Demon's Souls c'est un très bon cas d'école. Donc j'avais jamais vraiment abordé l'UGC, j'avais jamais consacré un épisode, et à ce jeu-là c'est vraiment l'occasion parfaite pour en parler. Alors, souvent, quand on parle d'UGC, les gens s'imaginent quelque chose d'hyper formalisé, d'hyper cadré, mais c'est un peu inexact, et c'est un peu d'ailleurs l'inverse de ce qu'est l'UGC. Ce qu'on entend par UGC, c'est vraiment tout ce que les utilisateurs d'un produit, en l'occurrence ici des joueurs et des joueuses, vont créer autour d'un produit, ici un jeu, sans qu'aucune relation commerciale n'encadre cette création de contenu. Typiquement, si je fais un let's play de Demon's Souls et que je le publie sur YouTube, c'est de l'UGC. Parce que c'est moi, en tant qu'utilisateur du logiciel Demon's Souls, qui crée un contenu et qui le partage. Mais si demain, Bandai Namco, qui est l'éditeur, typiquement pour l'Europe, me paie ou m'envoie une copie du jeu pour que je le teste et qu'ensuite je le publie sur mes réseaux, ce n'est plus de l'UGC parce qu'une relation professionnelle encadre cette création de contenu. Et ça peut être fait par un contrat ou même de manière plus informelle, mais l'idée de l'UGC, c'est que c'est ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui crée du contenu sur le jeu en question. Alors évidemment, quand un influenceur ou une influenceuse crée du contenu sous couvert d'une collaboration commerciale, in fine, ça reste une vidéo en plus sur un jeu, donc ça ressemble énormément à de l'UGC, mais là, vu qu'on a une relation commerciale, on est dans quelque chose que l'éditeur ou l'entreprise en question a payé, ce qui n'est pas le cas de l'UGC et ce qui est fondamental. Pour donner d'autres exemples concrets, si vous partagez une photo du jeu prise grâce à un mode photo, par exemple, et c'est le cas sur Demon's Souls, je crois qu'on peut le faire, par exemple sur votre Twitter, vous partagez cette photo sur Twitter, bah c'est de l'UGC. Vous faites un post Reddit sur les meilleures armes du jeu, c'est toujours de l'UGC. C'est une sorte, en gros, de bouche à oreille premium, puisqu'un contenu en fait, soutient la promotion que vous allez en faire. Et on sait que le bouche-à-oreille, c'est un levier extrêmement puissant de communication. Et donc, l'UGC tire sa puissance de ça. D'accord, mais ça, c'est très bien, mais c'est pas nouveau en soi. Alors, pourquoi c'est si important et pourquoi j'en consacre un épisode? Alors, effectivement, c'est vrai, c'est pas nouveau, mais ça a explosé grâce à Internet et grâce aux réseaux sociaux. Parce que les gens peuvent partager leur expérience et que la création de contenu est devenue beaucoup plus accessible. Et donc, plus vous avez de contenu, plus vous développez la notoriété de votre jeu. Et donc là, on rentre dans l'entonnoir classique du marketing opérationnel qui se base sur trois objectifs, donc qui est de faire connaître son jeu, le faire aimer et le faire acheter. Car si votre objectif, c'est de vendre un jeu, eh bien, il faut déjà que votre jeu soit connu, puis ensuite qu'il donne envie et qu'enfin qu'il motive l'achat. Ces trois axes, faire connaître, faire aimer et faire acheter, ce sont trois jalons du marketing opérationnel. Ce schéma s'est complexifié avec le temps, et on le verra plus tard, mais là où l'UGC est extrêmement puissant, c'est qu'il permet de remplir en fait ces trois champs et plus encore. Si je prends un exemple, on peut imaginer que vous puissiez découvrir un jeu grâce à un screen du jeu partagé sur les réseaux sociaux. Ou si vous vous connectez sur Twitch et que tous les streamers les plus populaires sont en train de streamer ce jeu-là, vous allez en découvrir un peu plus. Vous allez peut-être commencer à aimer le jeu, aimer ce que vous voyez. Et puis, si on termine avec le troisième axe, si votre meilleur pote, par exemple, fait une story Instagram où il montre une mort complètement ridicule, peut-être que ça va vous donner envie d'acheter le jeu. Et là, vous avez l'impression que tout le monde en parle, alors que c'est seulement deux youtubeurs et une story de votre ami. Juste parce que des gens se sont appropriés le jeu et ont créé du contenu dessus. Évidemment, tout ce contenu généré participe à un effet d'engouement, et vous risquez de ressentir que tout le monde s'amuse sur un jeu, et donc, pourquoi pas vous aussi. Donc, cet aspect, tout ce contenu, donc l'UGC, participe aussi à ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, qui est en fait la peur de passer à côté de quelque chose. Pour revenir sur l'UGC, on a tout un tas de mécanismes et de modes qui sont là pour insister l'UGC désormais. Je vais parler du mode photo qui répond exactement à ça, mais on pourrait aussi citer la compétition, l'e-sport de manière générale, les modes sur PC, les speedruns, les tutos, slash conseils, slash guides sur un jeu, le roleplay, les modes créatifs. Tout cela, en fait, ce sont des pratiques UGC qui sont parfois volontairement encouragées par le design du jeu. Un jeu multijoueur, par exemple, va souvent avoir des compétitions professionnelles, voire même amateurs. Un jeu bac à sable va encourager les joueurs et les joueuses à créer ce qu'ils veulent et à les partager. Donc toutes ces mécaniques viennent en fait d'un design de jeu qui est là pour que les joueurs et les joueuses s'approprient ce jeu-là et créent du contenu autour de ce jeu. Et puis ça concerne pas que les éditeurs, on le voit aussi avec les constructeurs, par exemple Sony qui sur sa manette DualShock met clairement un bouton share slash partage pour faciliter l'UGC. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte, on va tout faire pour que la création de contenu soit la plus simple que possible et que le partage en soit aussi facilité. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par la puissance de l'UGC, je vous invite à aller regarder les résultats financiers et l'engagement des joueurs et des joueuses sur un jeu comme Roblox par exemple, et vous comprendrez à quel point c'est extrêmement efficace. Toutes ces pratiques UGC, elles permettent de créer et de fédérer une communauté autour d'un produit, d'une marque. Et si on reprend le schéma, entre guillemets, que je vous ai cité tout à l'heure, donc mon entonnoir entre faire connaître, faire aimer et puis faire acheter un produit, eh bien on se rend bien compte que la relation client ne s'arrête plus à la vente désormais. Mais ce qu'on veut faire, c'est fidéliser derrière. Et c'était d'ailleurs, et c'est encore un peu en vrai, la grande mode dans le marketing, que de parler de fidélisation des clients plutôt que d'acquisition de nouveaux. Mais certaines entreprises, elles veulent aller plus loin que de la fidélisation client. Elles veulent construire une communauté autour d'une marque. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui a acheté un produit, pour qu'elle l'achète un autre, bah c'est pas toujours évident. On revient un petit peu dans ce même schéma de faire connaître, faire aimer, faire acheter. Et pour un éditeur de jeu, maintenant, l'enjeu, c'est plus tant de vendre un jeu à la fin de l'expérience client, mais de vendre sa suite, son édition collector, et que vous rameniez d'autres personnes dans ces communautés pour l'élargir. Et même si on prend l'actualité, avec la série Fallout, elle montre bien qu'aujourd'hui, les éditeurs ont intérêt à développer l'aspect transmédia de leur marque. Et plus vous avez une communauté large de joueurs et de joueuses, plus vous allez pouvoir vendre vos droits d'exploitation de marque cher. Si je prends l'exemple de Fallout, vous vous imaginez bien que si j'ai un jeu où j'ai 20 millions de personnes qui y jouent, le jour où je vends mes droits pour en faire une série télé, je vais les vendre plus cher que si j'ai qu'un million de joueurs et de joueuses. Donc l'UGC, on le voit, c'est un moyen de créer une communauté à qui on va pouvoir vendre plus cher et plus souvent, mais à qui on va pouvoir aussi vendre à d'autres entreprises. Parce que les marques, elles cherchent plus tant à attirer des joueurs et des joueuses, mais à les faire intégrer dans une communauté et les transformer en ambassadeurs. Car non seulement ils seront plus réceptifs aux produits de la marque et du studio, mais aussi ils vont ramener d'autres joueurs et joueuses. Donc on comprend bien que l'UGC, oui, ça permet que en fait, on ait beaucoup plus de contenu grâce aux plateformes comme YouTube, comme Twitch. On va donc être plus facilement exposé en fait, à un jeu d'un studio. Mais en vrai, on pourrait se dire, mais en fait, ça ressemble presque à de la pub. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vois un million de fois une pub pour un jeu ou un million de vidéos YouTube dans mon fil que je vais forcément acheter le jeu. Alors, il y a quand même un effet que plus je suis exposé, plus ça m'incite à acheter. Mais on pourrait se dire finalement, en quoi c'est plus puissant que de la pub ? Si ce n'est, bon, c'est gratuit, y en a peut-être plus, enfin, par rapport à de la pub. On pourrait se dire bon effectivement si c'est un youtubeur j'ai peut-être plus d'affinité avec lui ou elle donc je suis plus réceptif à sa vidéo YouTube qu'à sa publicité. Tout ça c'est vrai, mais il y a un autre aspect qui est fondamental dans l'UGC et qui concerne là les créateurs et les créatrices de contenu. Alors, je ne suis pas hyper fan de cette expression d'ailleurs, mais il faut reconnaître qu'elle est désormais très parlante et elle a l'avantage d'être assez explicite. Et tout le monde voit de quoi je parle quand je parle de créateurs et de créatrices de contenu. Il y a un effet qu'on appelle l'effet IKEA. L'effet IKEA, ça consiste à dire que vous allez porter plus d'affection aux objets que vous avez vous-même faits. Typiquement, vous achetez votre chaise sur IKEA, vous devez la monter vous-même, ben, le fait que vous l'assemblez vous-même, ça crée un peu plus d'affection que si vous l'avez acheté tel quel. Alors, on peut débattre de cette pertinence, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est que plus vous passez du temps et plus vous mettez de votre personne sur un objet, que ce soit un objet physique ou immatériel, plus vous allez avoir de l'affection envers cet objet. Et pour les créateurs et les créatrices de contenu, eh bien, ce qui se passe, c'est que plus vous faites de contenu sur un jeu, plus vous vous investissez émotionnellement. Et plus l'éditeur vous a déjà vendu leur prochain jeu. Pourquoi ? Parce que plus vous créez de contenu autour de ce jeu, ou autour de la licence, plus vous avez investi du temps et de l'énergie sur ce jeu, en plus de votre expérience de jeu tel quel. Et plus cette marque va désormais faire partie de vous, et vous ne pouvez plus vous en détourner. Elle fait désormais partie de votre identité. Et ce jeu ou cette marque, c'est désormais une partie de vous-même, parce que vous avez tellement donné de votre « personne » entre guillemets autour de ce jeu. Alors, tout ça c'est bien beau, mais ça fait 10 minutes que je parle du GC, et on n'a toujours pas parlé de Demon's Souls. Quel est le rapport ? Alors, j'en parle parce que Demon's Souls est particulièrement bon sur les GC. Et ce que From Software a construit avec Demon's Souls, ils l'ont gardé sur toute leur licence derrière. Il faut bien noter que l'UGC, c'est avant tout quelque chose de social. Et le jeu vidéo tend à ne plus être qu'une expérience individuelle, mais collective. Alors attention, faut pas confondre ici avec du multijoueur. Ce que j'entends par expérience collective, c'est que vous allez désormais partager autour du jeu, même si c'est un jeu solo. Vous allez en parler à vos amis, vous allez en parler sur un forum, vous allez en parler sur YouTube, sur Twitter, etc. Et donc, on ne vit plus l'expérience du jeu vidéo seul. Alors avant, on pouvait toujours en parler avec son cercle d'amis, c'est pas quelque chose qui est complètement nouveau, mais les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, fait que tout ça, ça s'est démultiplié. Alors certes, les pratiques UGC marchent terriblement bien avec des jeux multijoueurs, et c'est d'ailleurs peut-être là, en vrai, plus grosse révolution du jeu vidéo, de mon point de vue, plus que de la 3D, par exemple, parce qu'elle a changé notre rapport au jeu vidéo. Et un des aspects essentiels de l'UGC, c'est le partage. Parce que derrière l'idée de l'UGC, c'est de construire une communauté autour d'ambassadeurs non officiels. Et un des moyens simples d'inciter à l'UGC, avant qu'on le théorise, c'est d'avoir en fait mis des modes multijoueurs partout, et en tout genre. Souvenez-vous, c'était la grande lubie des années 2010, toutes les licences avaient eu droit à leur épisode multijoueur, et alors à cette époque-là, comme je dis, on n'avait pas foncièrement théorisé ce qu'était l'UGC, mais on se disait... Le multijoueur, ça marche bien parce que je vais pouvoir jouer avec mes amis, avec d'autres personnes, et donc je vais construire une communauté qui sera plus réceptive à ma marque. Et à cette époque, on a eu toutes sortes d'expérimentations de type de jeux multijoueur, hein, du PVP, player versus player, du PVE, du multijoueur asymétrique, du PVP-PVE. On a vraiment tout testé, et un de ceux qui l'a le mieux intégré, c'est peut-être From Software. Mais avant ça, j'aimerais qu'on prenne un moment pour réaliser à quel point Demon's Souls est un jeu social. Étrangement, moi quand j'y joue, j'y joue seul. Et pourtant, quand j'y joue, je le suis jamais véritablement. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des messages au sol qui ont été écrits par des joueurs qui m'indiquent parfois où se trouvent les prochains monstres, où je casse les trésors, etc. Et en fait... j'ai toujours un peu cet accompagnement d'une masse qui n'est pas avec moi, mais qui a laissé sa trace dans ce monde-là. Et donc, quand j'arrive à un endroit, j'ai pas l'impression d'être le premier à l'avoir exploré. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont vu avant moi. Il y a toujours d'ailleurs des fantômes d'autres joueurs qui montrent comment ces derrière ont trépassé. Et je peux aussi, si j'ai envie, invoquer d'autres joueurs, voire envahir la partie d'un autre joueur, ou même me faire envahir tout court. Et en fait... dans Demon's Souls, on est toujours entouré. Et ce type de mode multijoueur, il est assez insolite parce qu'il est à la fois synchrone, je peux effectivement me battre contre d'autres joueurs et joueuses, mais il est aussi asynchrone parce que j'ai des messages au sol et les fantômes des autres joueurs. Ce qu'on voit, c'est que l'expérience multijoueur, les interactions directes du moins, elles ne sont pas si courantes sur Demon's Souls quand on voit... les trophées typiquement sur PlayStation 5, on voit qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui envahissent, on voit qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui utilisent cet aspect multijoueur, même s'il est là, il y en a quand même un certain nombre, mais la majorité des expériences sur Demon's Souls, elles restent quand même assez solo ou de manière asynchrone. Et c'est peut-être pour cette raison que quand on définit un Souls, les gens mettent souvent en avant autre chose que le multijoueur, c'est-à-dire... on met souvent en avant la difficulté, voire parfois le level design, et ce côté multijoueur et social, il est souvent mis de côté. Et d'ailleurs, on peut faire des Souls-like sans avoir de multijoueur, et ça ne choque personne. Alors, dans la définition du Souls-like, certains précisent que ce qu'il faut, c'est que le jeu soit dur, mais pas parce qu'il est dur de manière... technique, mais parce qu'il raconte pas beaucoup de choses sur son histoire, sur ses mécaniques, qu'on n'a pas vraiment de tuto, et qu'on apprend vraiment que par petits bouts ce qu'on fait dans ce monde-là. Certains d'ailleurs qualifient les Souls de jeux à wiki, signifiant par là que vous avez besoin d'une page internet pour vous donner toutes les infos sur le jeu. Mais le multijoueur, et encore plus l'aspect social, s'est jamais vraiment présenté comme un des piliers des Souls, du genre Souls, qui s'est construit sur la définition, par extension des jeux de From Software. Et pourtant, je trouve que cet aspect social et multijoueur, c'est ce que les Souls font de mieux. Si on prend par exemple Zelda, dans les jeux de Zelda, la plupart des boss, ils sont designés de fait à ce que vous voyez assez rapidement les parties fragiles du boss en question. C'est pas le seul jeu à faire ça, et c'est normal parce que ce design, en fait, il vous conduit vers la bonne manière de jouer, et plus le design dirige vers la bonne action, vers le bon comportement, plus on a tendance à dire que c'est un design réussi. Et on parle parfois d'affordance dans le jeu vidéo pour indiquer que la forme permet d'en comprendre la fonction. C'est-à-dire que, en fait, l'affordance, c'est une technique de game design pour nous mettre sur des rails sans que cela se voit pour nous donner l'illusion d'avoir compris tout seul. Et ça nous gratifie, en fait, tout en évitant la frustration de ne pas savoir quoi faire. Pour donner un exemple simple d'affordance, une potion verte dans un jeu vidéo, ça vous évoque un soin sans que ce soit écrit. Et vous avez tout un tas d'exemples, typiquement un levier. Bah, on comprend qu'un levier, il va être activé d'une telle manière juste par la forme du levier. Et Demon's Souls, typiquement, il ne montre jamais le point faible d'un monstre ou d'un boss. Pour le savoir, en fait, il faut tester ou alors il faut lire les messages au sol. Et si cette économie d'informations transmise par le design, elle peut sembler être une faiblesse au premier abord, elle permet en fait d'augmenter la difficulté, certes, mais surtout de créer une entraide entre les joueurs et les joueuses. Si le jeu ne vous donne rien, alors c'est vous qui allez devoir chercher par vous-même l'information. Le problème de ça, c'est qu'il faut que l'information existe. Oui, mais puisque le jeu ne vous dit rien, celui ou celle qui va découvrir par soi-même un chemin, une faiblesse, etc., il va ressentir un tel sentiment de découverte, d'accomplissement, qui va créer une envie quasiment irrésistible de partager sa découverte. Et c'est ainsi que du contenu va se créer autour du jeu. Et c'est ainsi que From Software incite à l'UGC. Si l'histoire et le lore n'est pas détaillé, pas de souci. Vous trouverez bien un youtubeur ou un streamer qui va vous en parler. Si vous avez besoin de savoir comment monter vos statistiques, faites un tour sur Reddit et vous verrez comment vous devez monter votre personnage. Si vous bloquez sur un boss, vous trouverez pléthore d'articles et de vidéos à ce sujet. On explique souvent la difficulté d'un Souls par le manque d'informations. Le jeu est dur parce qu'on ne nous dit rien d'emblée. Mais la difficulté, c'est pas une fin en soi. From Software ne fait pas des jeux difficiles pour que ce soit des jeux difficiles. En fait, cela permet d'accroître l'interactivité. C'est-à-dire que les joueurs et les joueuses vont devoir tester par eux-mêmes. Mais surtout, cela va motiver les gens qui ont découvert l'info à la partager et donc partager du contenu sur le jeu. C'est pour ça que je qualifierais Demon's Souls et les Souls-like de manière générale de jeux communautaires. Car on a l'impression d'appartenir à un grand collectif, une communauté de joueurs et de joueuses qui s'associent de manière directe et indirecte pour, entre guillemets, battre le jeu. En partageant nos infos, on va collectivement combler un manque créé par le jeu dans un esprit presque de recherche scientifique. Et plus vous participez à cet effort, plus vous créez de contenu, et plus l'effet IKEA sera fort, et plus vous allez devenir un ambassadeur de ce jeu. Et ce phénomène-là, il est essentiel, me semble-t-il, à ce qui définit vraiment ce qu'est un Souls. On a évidemment beaucoup de jeux qui fonctionnent comme ça, que ce soit Minecraft ou GTA V, avec le replay, mais la différence c'est que l'UGC est permise dans une structure bac à sable de ces jeux. C'est-à-dire que dans ces jeux, dans Minecraft par exemple, on peut créer tout ce qu'on veut. Et donc si on crée ce qu'on veut, on a envie de le partager. Et pareil pour GTA avec le roleplay. Mais dans Demon's Souls, vous ne créez rien dans le jeu. Des messages à la limite. Mais le gros de la création, il se situe hors du jeu. Et en réponse à des manques du jeu. Et cette pauvreté apparente de game design et d'information, en fait, elle permet derrière une richesse de création et de contenu. Et c'est en cela que l'expérience multijoueur d'un Demon's Souls, elle est unique parce qu'elle se déroule surtout hors du jeu. Ce qui est quand même un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut voir dans l'industrie du divertissement, puisque aujourd'hui, la lutte pour l'attention du consommateur pousse les éditeurs et les studios à vous garder captifs au maximum dans leur jeu, en essayant d'attirer votre attention tout le temps, et de manière toujours plus ingénieuse. Et pourtant, avec Demon's Souls, c'est tout l'inverse. Jamais un jeu qui nous aura sorti aussi volontiers de son expérience ne nous aura autant donné envie d'y revenir. Voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a permis de comprendre ce qu'était l'UGC et le tour de force qu'a réalisé From Software avec ses licences. Pour être honnête, ces stratégies n'est jamais mentionnées de manière explicite dans les interviews des développeurs. Miyazaki, typiquement, n'a jamais dit « j'ai fait ça pour l'UGC ». Mais en fait, il fait pas mal de fois référence à ce savoir collectif qui émane des joueurs. Et je pense qu'il a vraiment en plus essayé de traduire en jeu une expérience personnelle, puisque étant jeune, il lisait des livres en anglais et il comprenait rien. Il s'en remettait seulement aux illustrations. Et c'est vrai que Demon's Souls retranscrit bien cette expérience. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, vous comprenez pas tout, mais vous allez essayer de vous dépatouiller soit avec des illustrations, soit en fait en échangeant, comme il faisait, avec d'autres personnes sur des forums, etc. En 2009, c'est vrai qu'on parle assez peu du GC dans le jeu vidéo, mais je reste persuadé en fait que c'est quelque chose que le studio avait déjà un peu pressenti, même sans l'avoir nommé et théorisé. L'UGC, ça existe depuis des décennies au-delà du jeu vidéo, et on commence à mettre des mots dessus aujourd'hui et à l'intégrer dans des développements de jeux de plus en plus, car on se rend bien compte que c'est extrêmement fort. Alors oui, tous les studios qui mettent des modes photo dans leurs jeux, bah parfois ils le font parce que la communauté leur a demandé ou parce qu'ils l'ont vu ailleurs et qu'ils trouvent ça cool, pas toujours dans la logique du GC. Mais c'est en train de se développer, il y a cette conscience en fait un peu stratégique qui émane et qu'on voit de plus en plus apparaître dans le jeu vidéo. Et je pense que d'ailleurs à l'avenir, et on commence déjà à en entendre, à le voir de manière théorisée de la part d'entreprise, et c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Et moi, à titre personnel, en dehors de toute considération marketing, hein, je trouve ça presque poétique, en fait, l'UGC de manière générale, que de se dire que finalement, les jeux qui marchent le mieux sont ceux, finalement, qui nous insufflent l'envie de créer et de partager. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. J'ai quand même passé pas mal de temps sur l'écriture. Pour être complètement transparent, j'aimerais en faire une vidéo YouTube aussi, parce que c'est vraiment, cet épisode, c'est vraiment, en fait, il est vraiment au croisement de tout ce que j'aime faire, en fait, à travers ce podcast. Donc, à la fois, on a des concepts business, marketing, qui sont très importants et qui ne sont pas toujours très documentés ou toujours de manière, enfin, parfois de manière un peu maladroite. Et puis là, j'ai un jeu que je trouve super, déjà, d'un point de vue personnel, mais qui s'y prête super bien. Et honnêtement, je pense que ce qu'a vraiment insufflé From Software avec cet aspect communautaire est extrêmement puissant, et il y a assez peu en fait d'éditeurs qui ont réussi à capitaliser dessus par la suite, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont chez eux et qui n'a pas vraiment été documenté, je trouve, jusqu'à présent, et c'est pour ça que voilà, j'ai fait l'épisode. Donc comme toujours, j'espère que vous avez aimé l'épisode, que vous avez appris des choses, c'est le plus important. Et si ça vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à faire de l'UGC autour de ce podcast. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à la prochaine. Salut !